Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Et non, ce n'est pas Stéphane au micro cette semaine étant donné qu'il a pris quelques jours de repos. Cela ne va pas nous empêcher de faire un petit tour de l'actualité Apple du moment, et il faut dire qu'elle a été chargée. Cupertino a en effet commencé à ouvrir les vannes des applications tierces sur iPhone. La seconde bêta d'iOS 17.5 permet d'installer la boutique alternative Al Store, qui comporte un émulateur pour différentes consoles. Les applications peuvent même carrément être téléchargées depuis le web, ce qui fait quand même un sacré bouleversement. Évidemment, Apple a fait ça à sa manière et on va analyser tout cela avec Christophe. Dans le reste de l'actu, Tim Cook continue son voyage d'affaires en Asie, Phil Schiller témoigne dans le cadre du procès contre Epic et Tesla vend son modèle Y en France. Nous sommes le samedi 20 avril, voici les informations de la semaine qu'il ne fallait pas louper. Comme je le disais, ça fait maintenant plusieurs jours que l'on peut installer des applications sur iPhone sans passer par l'App Store en Europe. C'est un gros changement qui est la conséquence directe du DMA européen. Christophe, ça va ? T'as pris un peu de temps pour installer Al Store sur ton iPhone ?
Salut Félix, ça va et toi ?
Très bien, ouais.
Bah, c'est surtout à toi que je réponds à la question, parce que c'est quand même toi le grand spécialiste de tout ça. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que t'étais content ? Est-ce que t'es content de pouvoir jouer à de vieux jeux Nintendo sur ton iPhone ?
Eh bien écoute, carrément, j'ai installé ça entre midi et deux, donc je vais payer les 2 € demandés avec plaisir et j'ai rejoint un vieux jeu jeunesse là que j'avais pas joué depuis super longtemps.
Eh ben écoute, moi aussi j'ai quelques vieux jeux justement auxquels je voulais rejouer, je m'y mettrai quand j'aurai le temps.
Ouais, bah ça va être l'occasion. Donc la grosse actu de la semaine, c'était bien évidemment l'arrivée de la deuxième bêta d'iOS 17.5 qui permet d'installer d'autres boutiques que l'App Store. La première boutique iOS à être sortie dans l'UE, c'est donc Al Store, une boutique qui était déjà disponible depuis longtemps via le sideloading. L'installation par un canal officiel, c'est pas le plus simple, étant donné qu'il va falloir faire quelques allers-retours dans les réglages, mais il n'y a rien qui va effrayer les utilisateurs à l'aise avec le système. Une fois installé, le contenu de la boutique est pour le moment assez léger. On y trouve surtout Delta, donc un émulateur pour console Nintendo, qui va de la Game Boy Advance à la Nintendo 64. Il y a également Clip, un presse-papier amélioré qui n'est pas gratuit, vu qu'il faudra souscrire un abonnement via Patreon pour s'en servir. Christophe, est-ce que tout ça, ça marque la fin d'une ère pour Apple ?
Tout ça pour ça, finalement, le grand Big Bang du DMA, c'est juste pour installer des émulateurs sur iPhone. Comme je le disais, c'est bien, j'avais un ou deux jeux auxquels je voulais rejouer. Je m'étais posé la question d'éventuellement d'acheter une petite console ou un truc comme ça.
Ouais.
C'est toujours ça de gagner. Quoi qu'il faut voir d'ailleurs si c'est pratique avec l'écran tactile pour les commandes et tout. Enfin, moi, je pense qu'on va pouvoir jouer avec une manette. Bon, tout ça, ça reste quand même un domaine très particulier, assez pointu. On attendra que d'autres arrivent avant de tirer des conclusions. Cependant, on peut noter quand même 2-3 petites choses. Alors, tu parlais de Clip, donc ce petit presse-papier amélioré. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la version qu'on peut acheter, acheter, hein, même si c'est sous forme d'abonnement, sur l'Alt Store, donc il a une différence par rapport à la version sur l'App Store, c'est qu'il tourne en tâche de fond.
Ouais.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des applications qui potentiellement vont avoir des comportements différents si on les achète sur l'App Store ou sur d'autres plateformes. Ça, niveau segmentation, c'est quand même pas top. L'autre point qui me fait encore limite plus peur, c'est Delta. Parce que donc, comme on l'a écrit, l'émulateur il est disponible gratuitement dans tous les pays sur l'App Store où le DMA n'est pas accessible. En Europe, il faut aller sur Alt Store PAL. Et donc, comme tu disais, payer aussi un abonnement, c'est quoi ? C'est 1 € ou 1,50 € par mois, quelque chose comme ça ?
Un peu plus, ouais.
Voilà. Alors, pour l'instant, on va pas tirer des conclusions parce que voilà, on parle d'un App Store avec 2 applications dessus. Mais c'est quand même pas très encourageant et il y a quand même moi j'ai un petit peu peur que les éditeurs se passent le mot et se disent tiens, finalement, les clients européens, on va les faire payer un peu plus cher. C'est pas une nouveauté dans la tech. Justement, on parlait de jeux vidéo, tu le sais aussi bien que moi, le prix des consoles de jeux vidéo est quand même souvent beaucoup plus cher en Europe qu'aux États-Unis ou au Japon.
Ouais.
Donc, si on fait le point, distorsion des prix, segmentation des apps, je suis pas certain qu'on soit dans la bonne direction pour le moment. Mais bon. Ce n'est que le début, on va voir.
Niveau segmentation, je me demandais aussi comment ça allait se passer au niveau des apps iPhone et apps iPad. Parce que là, par exemple, tu as Delta, donc, qui est juste disponible sur iPhone, ça ne pose pas de problème. Mais si tu avais une version iPad...
Oui, c'est étonnant.
Et que, par exemple, celle-ci était dispo sur iPhone et iPad partout dans le monde sur l'App Store, mais juste sur iPhone via Al Store dans l'Europe, ça serait un peu plus compliqué.
Mais c'est là où, quitte à faire les choses, je pense que les choses ont été faites à moitié, parce que... La question du DMA, donc, c'est de pouvoir permettre à... C'est de se dire, finalement, Apple, ou même Google, il n'y a pas de monopole sur les App Store, les autres doivent pouvoir facilement faire leurs propres App Store. Ok, c'est une position, c'est un point de vue, pourquoi pas. Mais alors là, enfin, je pense qu'il faut vraiment le faire partout. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit sur l'iPad, mais il faut aussi que ce soit sur les consoles de jeux. Microsoft, qui est très très vocal sur ces histoires d'App Store sur iOS, je ne crois pas que la Xbox soit particulièrement ouverte.
Non, ouais.
Non. Donc voilà, il faudrait que la Xbox, les PlayStation, enfin, il faudrait vraiment, alors là, faire un cas général et dire à la limite qu'il y a quelques exceptions. Voilà, pour les produits où on va dire qu'ils se vendent, on va dire à moins de 10 millions d'exemplaires, bon, bah là, d'accord. Voilà, mais dès que vous dépassez cette taille-là, alors là, c'est la liberté pour tous.
En parallèle de tout ça, Apple a lâché du lest au niveau des émulateurs sur l'App Store. Donc si cela était jusqu'à présent persona non grata, une récente révision des règles les autorise désormais. Les développeurs se sont précipités sur l'occasion. On a par exemple cette semaine vu passer Bimi, un émulateur NES. Bon, il a rapidement été supprimé par son développeur, mais bon quand même. On a aussi vu arriver donc un clone de Delta, justement, qui était en fait une contrefaçon. C'est quand même mal joué de la part d'Apple, qui arrête pas de clamer que son App Store est plus sûr que la concurrence.
Ceci dit, l'histoire de Bimi, elle est quand même assez incroyable. Hein, c'est-à-dire, marrant, quoi ouais. Mon application a été validée sur l'App Store, audience. Oh, mais peut-être que je vais avoir des problèmes avec Nintendo. Non, mais je la retire.
Ah oui, c'est ça. En plus, elle est toujours dispo sur GitHub, donc.
Ouais, non, mais c'est sûr que ça ne respire pas la sérénité dans les équipes de validation de l'App Store. Ouais. Mais bon, c'est vrai que quand les règles changent, les erreurs, au moins au début, elles ont tendance à se multiplier. Mais c'est vrai que si on devait faire le passif de toutes les erreurs de validation d'Apple, la liste, elle serait très longue. Hein. Ouais, c'est clair. Hein. Mais voilà. D'ailleurs, je pense, enfin, on va encore parler du DMA. Moi, j'aurais apprécié que les législateurs avancent sur ce terrain-là davantage. C'est-à-dire qu'ils mettent en place des mécanismes quand il y a des bisbilles entre l'App Store et les éditeurs. C'est-à-dire, dire par exemple Apple, ok, donc c'est chez toi et t'as tes règles, mais attention, moi j'estime que ces règles-là et là, elles sont pas justes. C'est peut-être là, ça aurait pu être un axe intéressant pour justement rendre la vie plus pratique pour les éditeurs.
Ouais.
Sinon, maintenant qu'on a les émulateurs, enfin j'en ai un petit peu parlé avec Stéphane, mon prochain grand combat, c'est que l'on puisse enfin faire de la virtualisation, notamment sur les iPads. Je pense que ça pourrait apporter un vrai plus quand même.
Ouais, carrément. Bah oui, surtout l'iPad Pro M2, M3, oui, carrément.
Et ça justifierait, ça permettrait de justifier un peu plus le prix de ces tablettes au passage.
Ouais. Pendant ce temps-là, Tim Cook continue son petit tour d'Asie. Après un gros passage en Chine et une visite éclair au Vietnam, c'est en Indonésie que le CEO a posé ses valises. Apple n'a pourtant pas d'usine là-bas, mais le patron a déclaré à l'issue de la visite qu'il allait étudier d'éventuels projets. Christophe, c'est quoi le but derrière ce petit tour en Asie ?
Moi, ça me surprend à chaque fois de voir Tim Cook se balader tel un chef d'État dans une région du monde.
Ouais.
C'est assez impressionnant. Hein. Enfin, ça illustre voilà, ce qui est devenu Apple, finalement, en l'espace de 10 ou 15 ans. Alors moi j'ai regardé son compte X, hein.
Ouais.
Il y a été beaucoup pour faire la promotion de ses solutions dans ses différents pays. C'était vraiment son objectif numéro un. Il a rencontré des artistes, des influenceurs, des éditeurs, tous ceux qui utilisent les solutions d'Apple et qui en font un usage intéressant. Le point d'orgue a priori de cette visite, c'est qu'il a été à Bali pour inaugurer une Apple Developer Academy. C'est presque ça, finalement, qui est assez intéressant. C'est, alors, dans l'imaginaire commun, quand on dit Tim Cook va en Asie, OK, donc il va aller visiter des sites de production, il va parler chaîne de logistique, enfin tout ça. Ouais. Et finalement, en tout cas, c'est le message qu'il a voulu faire passer, il a fait tout le contraire. Et finalement, ça peut se comprendre parce que ce sont des pays qui connaissent une croissance importante, une classe moyenne émergente, qui est appelée donc à se développer et... Bah, finalement, c'est des clients potentiels pour Apple à court ou moyen terme. Donc, sa visite, de ce point de vue-là, elle est tout sauf innocente.
Ouais.
Et puis, le vivier logiciel dans cette région, a priori, il est assez intéressant. Il est assez important. Il peut être aussi très intéressant pour Apple. Hein. C'est quand même intéressant d'avoir une population bien formée et qui est peut-être moins chère que le développeur lambda habitant en Californie. Bon, reste, enfin, tu l'as dit, hein, quand on connaît Tim, hein, s'il peut faire travailler ici ou là une usine ou deux, il va pas s'en empêcher. Oui, ouais. A priori, le sujet est quand même venu dans 2-3 discussions, voilà. Mais voilà, je pense que c'était vraiment, en tout cas, l'idée derrière ce voyage, c'était de se dire, oui, non, mais attendez, Bien évidemment, il y a des usines et des capacités de production dans ce pays-là, mais il y a aussi des centaines de millions de consommateurs. Et moi, Tim Cook, qui cherche en ce moment des points de croissance ici ou là parce que c'est compliqué, eh ben, je m'intéresse à ces marchés-là.
Ouais. Il y a toujours cette volonté de s'émanciper un peu de la Chine en allant chercher un peu les pays pas trop loin, quoi.
Également, ouais, également, tout à fait, ouais.
Une des autres grosses actualités du moment côté Apple, c'est ce témoignage de Phil Schiller qui a été appelé donc à témoigner cette semaine en Australie dans le cadre du procès contre Epic Games. On y a appris quelques détails intéressants sur comment fonctionne Apple et notamment qu'il n'y avait pas de prise de notes ou de procès verbal lors des réunions des dirigeants de l'entreprise. C'est assez surprenant. Schiller a aussi affirmé d'autres choses pour le moins étonnantes, comme le fait qu'il n'était pas vraiment intéressé par la rentabilité de l'App Store ou encore que le retour sur l'investissement, la trésorerie ou les prévisions financières n'ont pas été prises en compte lorsqu'il a été décidé d'appliquer une commission de 30% sur la vente d'une app. Christophe, ça te surprend de telles déclarations ?
J'ai bien aimé l'article de Florian là-dessus. Il y avait quand même un côté vraiment très jobsien dans ce que racontait Schiller sur la réunion Apple. Des notes ? Mais pourquoi tu prends des notes ? Ça sert à rien. T'es assez intelligent pour te souvenir ce qui est important, non ? Alors, il y a un directeur financier, enfin tout un département entier qui bosse sur ces questions de rentabilité, je me fais pas de soucis. Mais je le crois assez sincère quand il parle de la commission des 30%. Ouais. Dans ces domaines-là, le taux de commission a toujours oscillé aux alentours de 30-40%. Je serais pas étonné qu'il se soit dit bêtement, voilà, en partant de ce postulat, ok, bon, on va sur le bas de la fourchette, 30%, ça paraît raisonnable. Et puis, faut pas oublier que, enfin, je sais pas si tout au début, pour App Store, pour Apple, c'était évident que l'App Store allait devenir une vraie poule aux œufs d'or. Hein. Au début, ils expliquaient, ouais, bah, c'est à peu près pour rentrer dans nos frais, ça va nous coûter de l'argent, ça va nous coûter de l'énergie, des moyens.
Ouais.
Bon, c'est vrai qu'à partir du moment où l'App Store a commencé à générer des milliards de dollars, je pense qu'ils ont eu, tout de suite, ils ont sans doute fait des calculs beaucoup plus pointus et ils doivent en faire d'autant plus actuellement, justement, avec l'histoire du DMA.
Et pour terminer, vous n'échapperez pas à un petit point Tesla. Le fabricant a annoncé la mise en vente de son modèle Y propulsion à grande autonomie en France, quelques jours après son lancement dans plusieurs pays européens. Ce modèle est équipé d'un seul moteur à l'arrière et embarque une grosse batterie proposant environ 600 km d'autonomie. Les clients français peuvent profiter du bonus écologique et repartir avec pour 42 990 euros. Moins joyeux, Tesla va licencier une bonne partie de son personnel. 14 000 personnes sont sur le départ, ce qui représente plus de 10% du total d'employés. La décision n'est pas très surprenante vu que Tesla avait grosso modo doublé son personnel entre 2020 et 2023. L'entreprise est en ce moment dans une période difficile, les ventes sont en baisse et la concurrence aux aguets. Christophe, est-ce que tu penses que Tesla va remonter la pente ?
On peut appeler Nicolas ? On peut appeler un ami ?
Allez.
Oui, il y a effectivement une conjonction d'événements qui ne sont pas très favorables à Tesla actuellement. Voilà, il y a eu l'arrêt ou le changement de mécanisme des subventions gouvernementales dans certains pays.
Ouais.
Il y a eu quand même le sabotage de l'usine près de Berlin. Il y a eu également des attaques en mer Rouge qui ont également privé l'usine allemande de pièces détachées pendant, je crois, 2-3 semaines. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont conjoncturels et pour lesquels, bon, je me fais assez peu de soucis. Voilà, ouais. C'est un mauvais moment passé. Il faut peut-être aussi un peu redimensionner certaines choses, mais voilà. Ceci dit, à côté de ça, il y a quand même deux, trois choses à noter. Alors, je pense que le véritable souci de Tesla, il est assez similaire à Apple, c'est sa dépendance à la Chine. C'est vraiment une situation comparable. Je pense qu'ils ont vu le marché chinois peut-être un petit peu comme Apple, comme un Eldorado. Et puis voilà, Elon Musk, il doit voir maintenant des voitures chinoises et des prix, surtout qu'ils sont en Chine actuellement en surcapacité de production.
Ouais.
Donc voilà, il y a un vrai enjeu à ce niveau-là. L'autre truc qui a été intéressant et que Tesla a également a fait savoir, c'est qu'elle allait maintenant miser à fond sur son robot taxi au détriment d'une voiture relativement peu chère qui est promise depuis, on va dire, je sais pas, 3-4 ans. Alors moi, j'ai assez hâte de voir ça. Je crois qu'il doit en dire plus au mois d'août. Donc on verra. Moi, ça nous occupera. À l'approche, on sera encore à quelques semaines avant l'annonce des nouveaux iPhones. Voilà, ça sera sympa à suivre. Et puis, après, il y a toujours, quand on parle de Tesla, on parle d'Elon Musk. Et voilà, est-ce qu'il ne s'est pas un peu trop perdu sur X Twitter pendant ces derniers mois?
Ouais.
Est-ce que d'ailleurs, ce qui se passe actuellement sur Tesla, est-ce que c'est pas un signe, une manière de dire, voilà, qu'il reprend les choses en main? J'en sais absolument rien. Mais voilà. Alors, mais malgré tout, le marché électrique des voitures, le marché de la voiture électrique est vraiment est très très loin de la saturation. Mmh. Tesla a quand même quelques atouts assez uniques dans son jeu. Ouais. Donc je me fais quand même pas plus de soucis que ça.
Ouais. Bien, et ben merci Christophe du coup pour ce petit tour de l'actu.
Bon week-end à tous.
Et nous on se dit à bientôt pour un prochain podcast. Ciao ciao.